La première question était de savoir si nous allions voter oui ou bien si nous allions saboter le vote, qui était la première idée de Roland Béglin. Et nous avons procédé à une analyse comparative des données de 1974 avec celles du vote de 1959, qui avait échoué de peu, mais qui avait échoué tout de même. Donc, nous avions procédé à une analyse systématique de ces nouvelles conditions. Nous avions même ordonné un sondage discret par une entreprise suisse-allemande, téléphonique. Et nous étions arrivés à la conclusion que il y avait les éléments négatifs et les éléments positifs par rapport à 59.
Alors si on prend d'abord les éléments négatifs, lesquels étaient-ils ?
Le premier, c'était la mécanique même du vote qui obligeait les gens de Lofon qui voulaient rejoindre Bâle-Campagne ou Soleure à voter contre le Jura au premier tour. Donc c'était une machination juridique absolument odieuse de la part de Canton de Berne, avalisée par la Confédération, qui allait bloquer évidemment les votes du Lofonais. Le deuxième élément négatif, c'était l'apparition du suffrage féminin, puisque nous avions constaté par sondage que les femmes étaient légèrement moins favorables que les hommes à l'indépendance jurassienne, probablement par crainte du risque économique. Donc ça, c'était les éléments négatifs.
Et les éléments positifs ?
Alors les éléments positifs, il y avait d'une part le remplacement des générations. Nous avions le sentiment que les nouveaux électeurs étaient un peu plus favorables que les électeurs qui avaient disparu entre 1959 et 1974. C'était également l'ère du temps avec les révolutions libertaires, mai 68, les mouvements américains, etc. Et le deuxième élément qui était alors, lui, très important, c'était le développement démographique. À savoir que dans les régions où nous avions obtenu le oui en 59, la population avait augmenté davantage que celle qui avait voté non. Donc cet avantage démographique risquait d'être décisif. Il y avait alors, en plus de ça, une grande incertitude, c'était le vote blanc.
Précisément, le vote blanc, c'est ce mouvement qu'on a appelé la troisième force, qui appelait à vider en quelque sorte le plébiscite de sa substance et à voter blanc pour éviter un éclatement du Jura historique. Ça, c'était quand même vraiment la grande inconnue.
Effectivement, on ne savait pas combien de personnes suivraient cette consigne et surtout, on ne savait pas si elle bloquait plus de oui que de non. Et apparemment, nous avions des opinions divergentes entre Roland Béglin et moi, pour la bonne raison que lui habitait de Léman et il pensait que ça bloquait des oui, et moi j'habitais le Jura Sud et je pensais que ça bloquait des non. Et ça a été probablement le cas. Des non ont été bloqués dans le Sud, des oui ont été bloqués dans le Nord, mais au final, ça n'a pas empêché d'avoir une majorité de oui globale de se détacher.
Ce qui est assez marquant quand on regarde cette période, c'est que la campagne pour le vote du 23 juin a été extraordinairement courte. Entre le 18 mai, la décision des délégués du RJ de s'engager pour le oui, et puis le vote du 23 juin. Quand on voit ça aujourd'hui, ça paraît juste dingue.
Ce qui est vrai, c'est que la campagne a été courte. C'est ce que j'avais fait remarquer à Roland Béglin, qui m'avait répondu « Vous la trouverez bien assez longue quand vous la ferez ». Et il avait entièrement raison. Ces 5 semaines ont été les plus longues de notre vie pour beaucoup d'entre nous. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la préparation avait été commencée déjà l'année d'avant. Nous avions préparé notamment tous les textes, les appels, les listes de personnes à contacter au cours d'une préparation pré-campagne qui avait commencé en octobre ou novembre 1973.
Une campagne ici, dans le sud du Jura, qui avait aussi une tonalité peut-être particulière.
Le but était de mobiliser au maximum les régions où nous étions forts et d'avoir une campagne aussi calme que possible dans les régions où nous étions faibles, c'est-à-dire le sud. Donc ça nous obligeait à la discrétion dans le Jura sud et au contraire à une manifestation de présence très intense dans les régions où nous savions être majoritaires. Et ça a bien fonctionné comme ça. Par exemple, pas de barbouillage, pas de démonstration de drapeau, pas de collage d'affiches sauvages et d'histoires comme ça qui n'auraient fait qu'énerver l'adversaire et l'inquiéter. Or, le but était qu'il ne soit pas inquiet, qu'il croit tranquillement à sa victoire jusqu'au moment où il s'apercevrait que c'était une défaite.
Et c'est effectivement ce qui s'est passé, un peu à la surprise, non pas générale, mais en tout cas à la surprise de beaucoup de monde ici dans le Jura Sud qui n'avait pas forcément perçu que le oui pouvait sortir des urnes à l'échelle des 7 districts.
Le premier des surprises, c'était moi-même. J'étais terrifié par l'optimisme délirant de mes camarades du Jura Nord qui, eux, me disaient, y compris un historien célèbre comme Victor Erard, « Comment pouvez-vous encore douter de la victoire ?» Je leur proposais de venir se promener à Bévillard pour se mettre à en douter. Mais enfin, le fait est que, jusqu'au bout, j'étais extrêmement inquiet. Aussi parce que je voyais la tranquillité, la sérénité de nos adversaires. Sérénité trompeuse. Et les premiers à être sereins étaient probablement les membres du gouvernement bernois. Pourquoi ? Parce qu'ils obtenaient des informations de leurs fidèles. Et les fidèles disent toujours à leur maître ce qu'ils souhaitent entendre. Le courtisan, il flatte au lieu d'informer. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
C'est aussi la réaction d'Henri Houbert, conseiller d'État bernois, dans l'après-midi du 23 juin, lorsqu'il se rend compte que c'est Louis qui va sortir.
Oui, la réaction est restée célèbre. C'est une parole historique. Nom de Dieu, c'est le contraire. Nous étions d'accord avec lui. C'était le contraire que nous souhaitions.